mon histoire francophone en Colombie-Britannique, sur les traces de ceux et celles qui ont permis à notre langue et à notre culture de survivre. Merci beaucoup aux étudiants de 6e année de Mme Maude, Maxime Picard et Zoé.
Grand-papa, t'es né à Mille Baies, hein?
Oui, ainsi que mes 5 frères et sœurs. On habitait une petite ferme sur la rue Vautrin.
Vautrin? C'est pas un nom anglais, ça? Il y avait des francophones dans le coin?
Oui, plusieurs familles, dont la nôtre. Mais le nom de Vautrin vient de plus loin dans l'histoire. Il n'était pas mes contemporains.
Il est vieux, mais quand même.
Les Français et les Canadiens français furent des acteurs très importants dans le développement de la région de Mille Baies. Enfin, les deux premiers hommes non indigènes à visiter Mille Baies furent deux Canadiens français, les frères François-Xavier et Jean-Baptiste Vautrin. Ils explorent la rive de la baie Mille, Marlin en anglais, vers le milieu des années 1830, en canot alors qu'ils recherchaient des animaux à fourrure pour en faire le commerce. C'était les années les plus payantes de la traite de fourrure. Les deux hommes étaient nés au Québec et avaient rejoint la compagnie de la baie d'Hudson en 1834. Ils firent un séjour à Fort Vancouver. Les deux frères, comme il était très fréquent à l'époque, épousèrent des femmes Premières Nations. François joignit sa destinée à une femme de la nation Kotlin, alors qu'il était stationné à Fort Langley. Quant à Jean-Baptiste, il épousa une Sanguise à Fort Victoria. Éventuellement, les deux frères revinrent à Mille Baies pour travailler au moulin et travailler la terre. La terre de Xavier mesura 100 acres et celle de Jean-Baptiste mitoyenne à celle qu'exploitait son frère était de la même superficie. Leurs descendants, dont certains parlent encore le français, comptent des membres de 4 Premières Nations différentes parmi leurs ancêtres.
Alors, on peut dire que parmi les premiers colons, il y avait au moins quelques francophones?
Il y en avait en fait plusieurs, dont quelques-uns ont laissé leur nom pour la postérité.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Voutray Road à Milby a été ainsi nommé en mémoire de deux frères.
Bien voyons, j'avais compris que leur nom était Vautrin.
Oui, leur nom était Vautrin, mais les deux hommes ne savaient ni lire ni écrire. Alors, lorsqu'il y eut papier officiel à signer, les notables y allaient selon la prononciation. Le son « ain » n'existait pas en anglais. On y est allé avec ce qui était le plus facile à prononcer pour les anglophones. Leur nom a ainsi été transformé.
Tu en connais beaucoup sur l'histoire du coin, grand-papa. J'ai un travail d'histoire à écrire sur les francophones en Colombie-Britannique. Est-ce que tu peux m'en dire plus?
Tu t'adresses à la bonne personne. Ton grand-père est une encyclopédie vivante.
Tu exagères peut-être un peu. Mais oui, j'aime l'histoire, la généalogie. Je crois qu'il est important de savoir d'où l'on vient, de connaître ses origines.
Pourquoi est-ce important?
Parce que ces gens qui sont venus avant nous, qu'ils soient nos ancêtres ou non, partagent notre histoire, notre passé, mais aussi notre présent. C'est grâce à ce qu'ils ont accompli que nous sommes qui nous sommes aujourd'hui.
Bien dit, eh oui. Je peux te donner un peu plus d'informations.
Yeah! Qu'est-ce que tu peux me dire de plus?
Tu connais la petite église historique juste au nord de la baie?
Oui, une toute petite église.
Eh bien, elle a été construite sur une parcelle d'un terrain ayant appartenu à un certain Joseph Gaboury du Québec. L'église Saint-François-Xavier, une église catholique, était à ce moment-là non seulement un lieu de culte pour les francophones de la région, mais aussi un point de rassemblement. À travers l'histoire des francophones catholiques du Canada, les églises étaient des lieux de culte, mais agissaient aussi comme des centres communautaires. C'était l'endroit où on célébrait la culture et la langue française. La paroisse était le point de ralliement.
Amis et paroissiens, voici enfin le moment que nous attendions tous, la bénédiction de notre petite église par Mgr Jean-Nicolas Lemine.
Chers brebis de Jésus-Christ, prions ensemble sous ce magnifique soleil. Nous demandons aujourd'hui à Dieu de bénir l'église Saint-François-Xavier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Cette cérémonie, toute solennelle qu'elle soit, est aussi une occasion de souligner dans la joie le travail ardu à la volonté des paroissiens et de votre prêtre. Travail qui a rendu possible l'érection de cette première église catholique de la région. Nous avons choisi Saint-François-Xavier comme patron pour une bonne raison. Il était un grand missionnaire, l'apôtre des Indes. Soyons-nous tous éclairés et guidés par son engagement.
C'est légende, celle qu'on t'a fait oublier. Les arbres cherchent la lumière, nos mains en font autant. Sous l'écorce et la peau, tout est lié. Tout est lié, tout est lié. Dans la clarté de nos pas, l'avenir peut nous traquer au fond des territoires. Sous l'écorce et la peau, des murmures de là-haut. Tout est lié, tout est lié. Tout est lié, tout est lié. Thank you. penser les gens, celles qu'on t'a fait oublier. La brise raconte son histoire, c'est les gens. Moi je m'en vais écouter. J'ai la mémoire vive, je porte dans ma voix la plainte des rivières, celle des caribous. La cage et son tambour, le sang qui respire, la neige et son silence, tout est lié. Tout est lié, 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 tout est lié.
En 1692, un comptable, antiquaire et professeur de musique du nom Jean-Baptiste Delhomme quitta Bordeaux en France pour venir s'établir à Saanich. Durant cette période, le Canada tentait d'attirer les immigrants pour peupler ce grand pays. La région de l'Ouest, plus particulièrement l'île de Vancouver, était le choix de plusieurs. Bien sûr, Jean-Baptiste aurait pu choisir le Québec, où la majorité parlait français. Mais l'île de Vancouver lui semblait un meilleur choix pour y faire pousser du raisin. Jean-Baptiste voulait faire du vin. Ces hommes, épris de culture, agenèrent à son arrivée en Colombie-Britannique. Le travail de la terre n'était pas facile. Le travail d'agriculture, de vignoble, n'était pas facile. Avec lui étaient venus son épouse et 5 enfants. Le plus vieux, Henri Lucien, avait 14 ans lors de l'esquie. Et la plus jeune, Marie-Thérèse, 4 ans. 2 enfants naquirent sur l'île, Marie et Anthony. Grand-mère Doulum les avait suivis. La matriarche décéda quelques années plus tard et fut enterrée au cimetière Rose Bay à Victoria. Mais les tempêtes fréquentes endommagèrent le cimetière et Jean-Baptiste rapatrirent le reste de sa grand-mère au cimetière de l'église Saint-Francis-Xavier. Pourquoi Milvay? Parce qu'en 1901, les Doulum y déménagèrent leur pénâtre. La région était sauvage à l'époque, mais les enfants, des jeunes hommes solides et devenus de véritables yopianés, charpentiers et brossards, eurent tôt fait de déficher la terre et construire une maison. Ils tracèrent même le Doulum Road. Lorsqu'ils furent enfin installés, ils se rendirent compte que la seule église catholique de la région, Saint-Francis, avait été longtemps négligée et était maintenant abandonnée. Ils manquèrent et de prêtres et de paroissiens. Après de longues difficiles démarches, ils parviennent à obtenir qu'un prêtre vint célébrer la messe une fois par semaine. Cette nouvelle résonnèrent la petite paroisse et les Doulum, en compagnie d'autres paroissiens, y réparèrent la petite église. Jean-Baptiste a réussi à planter son vignoble et a produit du vin. Sur leur ferme Hope Farm, de nombreuses espèces de fruits et de légumes fleurissaient. Malgré tout, Jean-Baptiste continua à donner des leçons de musique. Cette famille de mélomanes se produit souvent pour le plaisir et Jean-Baptiste composa même une pièce de Milvay March en 1911. Les fils furent employés dans différents métiers. Ainsi, Ernie Lucien travailla comme chef de quart dans plusieurs moulins de la région. Ils gravèrent aussi plusieurs pierres tombales. Un autre fils, Édouard, devient charpentier. Les Doulum ont marqué l'histoire des francophones, non pas comme des héros ou des politiciens l'ont fait, mais plutôt en tant que des déficheurs, des pionniers. C'est à la sueur de leur front et de celle d'autres francophones de la vallée de Cowichan s'est développée.
Oh.
On arrive à Duncan.
On arrête de se dégourdir les jambes?
Parfait. Je dois acheter un petit quelque chose pour le souper.
Regarde, papa! Dans la vitrine du magasin, ces gilets ressemblent aux tiens.
Oui, Henri, en effet. Ce sont des gilets en tricot du Cowichan.
C'est comme une marque de commerce?
Oui et non. Ce tricot est caractéristique du travail des Cowichan, un peuple indigène à la région. Et ces gilets très épais sont très populaires.
On les connaît sous d'autres noms, gilets indiens, gilets Siwash. Cette dernière dénomination est cependant lourde de préjugés. En effet, elle vient du mot Chinook Siwash qui veut dire sauvage, nom donné aux gens des Premières Nations par les colonisateurs français, donc nom à éviter.
Mais il y a un autre type de tricot, ressemblant beaucoup au Cowichan Knitting, connu sous le nom de Mary Maxim Sweaters.
Alors ce sont les Cowichan qui l'ont inventé, ce type de modèle.
File la laine, file les jours, garde ma peine et mon amour, livre d'images des rêves lourds, ouvre la page à l'éternel retour.
Bien avant contact, les Coast Salish people, incluant les Cowichan, tissaient des couvertures, des jambières et des mécapales, avec le poil de chèvre de montagne et de chien, ainsi qu'avec des fibres végétales. On filait la laine et tissait sur métier à deux barres. Il y a peu d'informations sur la production pré-contact et l'utilisation du tissage, bien qu'il existe encore des exemplaires dans les musées. Aucune évidence archéologique ou ethnographique tricot n'existe. Le mouton a été introduit sur l'île de Vancouver dans les années 1850 et cela assura une source abondante de laine. C'est durant la même période que les premiers colons arrivent dans la vallée du Cowichan. Il semble que ce soit à ce moment que les femmes des Premières Nations commencèrent à tricoter. L'instruction organisée du tricot fut donnée par les sœurs de la congrégation de Sainte-Anne, envoyées comme missionnaires dans la vallée de 1864 afin d'y établir une école. Les sœurs enseignèrent aux femmes Cowichan à tricoter des mitaines et des bottes. Les archives de l'école nous apprennent que les travaux des élèves furent exposés et vendus au Chicago World Fair de 1893. De bas et de mitaines, l'expérience aidait. Les étudiants commencèrent à tricoter des sous-vêtements aux genoux et des gilets. Les gilets sont tricotés sans couture en utilisant plusieurs aiguilles selon la méthode européenne des années 1800. Les premiers gilets étaient monochromes au début. Plus tard, certains tricoteurs utilisaient la technique de l'île Fair, First Isle. L'utilisation et l'enseignement des gilets à motifs sont généralement attribués à Jeremiah Colvin, arrivé à Cowichan Station en 1885. La différence entre le gilet Cowichan et le gilet écossais, First Isles et Shetland, est que Cowichan est toujours filé et tricoté à la main, coloré naturellement en deux ou trois tons crème, noir et gris, et qu'il est beaucoup plus lourd que les gilets écossais qui sont multicolores et utilisent la laine beaucoup plus légère.
Alors, si je comprends bien, ce sont les sœurs de Sainte-Anne, des francophones, qui ont permis aux femmes Cowichan de diversifier leur art?
Oui, et tu as très bien choisi ton mot « diversifier », car les femmes Cowichan étaient déjà expertes dans l'art de tisser. Elle reproduisait des patrons très compliqués, par exemple, en tissant les couvertures des chefs. Les sœurs n'ont fait que leur donner une nouvelle technique. L'introduction des aiguilles à tricoter et du tricot leur a permis de diversifier, comme tu le dis si bien, leur art.
Donc, est-ce que ces artistes peuvent vivre de leur art?
Certaines le peuvent, mais la partie n'est jamais gagnée. Plusieurs compagnies, et ce depuis 1920, se sont appropriées l'idée et le design. Il n'y a pas très longtemps, la compagnie de l'abbé Dution, qui est encore empêtrée dans le scandale des terres non cédées, soit en octobre 2009, a présenté sa ligne de vêtements pour les Jeux olympiques d'hiver 2010, incluant un gilet qui ressemblait au gilet Cowichan. La chose s'est réglée à l'amiable.
Tu veux dire que le gilet est protégé?
Oui, Henri.
Est-ce qu'il y a des artistes francophones dans la région?
Bien entendu. Il y a des artistes de toutes les nationalités. Parmi les Coast Salish people, certains portent des noms de famille à consonance française.
Par exemple?
Par exemple, le sculpteur reconnu internationalement Douglas Lafortune. Lafortune est définitivement un nom d'origine française. Les premiers Lafortune à venir s'établir dans le coin étaient Joe et France Lafortune de Québec à la fin des années 1800.
Je pense que ce sera le sujet de mon projet, tous ces francophones venus s'établir dans la vallée du Cowichan. Est-ce que tu connais d'autres histoires, grand-papa?
Des tonnes! On pourrait peut-être arrêter au cimetière Saint-Francis-Xavier en retournant à Victoria. Tu verras sur les pierres tombales les noms des Lafortune, Delhomme, Lacroix, Fortin, Généreux, Gay, Saint-Armand, Simard et Dupont.
Et où est-ce que je pourrais obtenir de l'information sur ces gens-là? Ce n'étaient pas des stars ou des héros, comme tu as dit plus tôt. Est-ce qu'il y a des archives qu'on peut consulter?
Il y a des associations historiques. Ce sont grâce à elles que ces gens du peuple ne sont pas oubliés. Les membres de ces associations sont les gardiens de notre petite histoire.
Est-ce que moi, je pourrais devenir membre?
Sais-tu quoi, mon grand? Toi et moi, on va devenir membres. Ce sera notre projet commun. Aimerais-tu ça?
Bien sûr! Je suis tellement content d'avoir trouvé mon sujet de travail.
On arrive à Chimaynus. On arrête prendre un café?
Bonne idée. Je commence à avoir des fourmis dans les jambes. Et si on arrêtait la petite galerie d'art? Il paraît qu'il y a une exposition organisée par un collectif d'artistes francophones.
Nous y voilà. Oh! C'est fermé.
Comment tu sais que c'est fermé?
L'écriteau, close.
Henri, ramasse un dépliant. Merci. Plusieurs artistes, Anaïs Gerber, Françoise Moulin, Maïdje Lavergne, Joanne Galipeau. Il y en a toute une liste.
Faudra revenir. Garde le dépliant. On verra si on peut venir la semaine prochaine.
On pourra arrêter la prochaine fois qu'on ira à une réunion de l'association historique, grand-papa. Ça nous fera un voyage thématique.
Bonne idée, Tiga. Parce que l'histoire, c'est tous les jours qu'elle s'écrit. Ces artistes-là, ils seront l'histoire de demain.
Ça nous aura sa vie, on avait pas grand chose à faire. On a dit on fait une danse, on va danser si vite. On s'est trouvé un violon, un salon des partenaires. Puis là, la soirée commence, il était 7h30. Entrez, mesdames, entrez. Marie en a sa belle robe et pire à l'ordre de ses yeux bleus. Bonne année, ses souliers blancs sont décollés du ses beaux grains. Elle m'a fermé sur son grand lien d'arrivée du coup. Y'a aussi Jean-Marie, mon cousin et mon ami. Camille, sa belle habille avec ses petits souliers vernis. La blami, comme on dit, comme un camille, voyageur. Quand on danse à sa dilon, c'est pas pour des embrassages, c'est doré le plus arrivé. Il faut pas penser des fonds, il faut bien suivre le violon. Si vous voulez pas être sage, aussi belle partie de côté. Tiens, les canis, place au sort. Tout le monde balance et puis tout le monde danse. Jeanne danse avec Antoine et puis Jeannette avec Raymond. Quand vient d'arriver avec Thérèse à ses côtés, elle va passer la soirée à faire semblant de s'amuser. Mais à son ami Jean-Louis, son amour et son ami, qui est parti gagner sa vie l'autre bord de l'île Anticosti, est parti à beau samedi quand même, on dit, il m'a le fait. En dans ce 17 corps, et puis le blanc, et puis la blancheuse, et puis le corbeau dans la cage, et puis nous blancs pour ses mines. C'est Charlie qui a nous calé, avec tout son amoureuse, il s'est fait mettre au vacances, pas moins fan du bon gris. Un dernier tour, la chaîne des dames avant de partir, à m'en serrer la main du fort, à m'en garder, j'ai perdu le poids, dimanche, ce sera après les veines, j'irai petit bain, j'irai petit poil, salut, pensez tout droit, j'avais jamais viré comme ça. Me v'là tout étourdi, mon amour et mon ami, c'est ici qui s'est mis à la tournée comme une topie, à la campée, puis à la diva, des morts divides, et je dis, ça va être si tant Saint-Dylan, prends un course après une fille, il a fait tomber si vite qu'elle ne peut plus s'arrêter. Pour être titre de violon, avoir vrai toute la famille, avant qu'il s'envie en vie, il pourra peut-être l'éviter. Otto Gabinbi, fais la Madeleine, dit Otto Gifondi, fais la Madeleine, et puis fais la fond, et puis ton zicor, et puis vas-y voir quand t'es pas mort.
Recherche, texte et montage, Marie-Hélène Bourret. Cette émission est une production de CILS-FM 107,9 au cadran, la seule radio communautaire francophone à l'ouest des Rocheuses, et est rendue possible grâce à la participation de Patrimoine canadien.
Entre la rivière et le bois,
entre la rivière et le bois,
il y a une bergère.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles de CILS-FM qui ont rendu possible l'enregistrement des dramatiques. Merci.
Qui gardait son troupeau du loup.
La belle s'est endormie, qui m'amène.
La belle s'est endormie.